Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur la politique de la ville de Nancy concernant le logiciel libre et les données publiques avec Olivier Simon, directeur de Nancy Ville Numérique. Et je vais passer la parole à mon collègue donc Étienne Gonu qui va animer cette discussion. Étienne, c'est à toi.
Merci Fred. Donc effectivement, cette rentrée 2020, nous avons décidé de consacrer deux sujets longs, donc aujourd'hui puis la semaine prochaine, le 21 janvier, aux collectivités qui œuvrent pour le logiciel libre et puis plus largement voilà, pour les libertés informatiques. Et donc aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir par téléphone Olivier Simon, directeur de Nancy Ville Numérique. Donc, vous êtes bien avec moi Olivier ?
Oui, bonjour à tous.
Bonjour. Effectivement, l'engagement de Nancy pour le logiciel libre, politiquement et concrètement, n'est plus à démontrer. Hein, c'est pour ça aussi qu'on a ce plaisir à vous recevoir. Déjà, moi, je pense qu'on peut citer, alors, par acte de transparence, mais également quand même pour, je trouve que c'est significatif, que ça montre l'engagement de Nancy. C'est-à-dire que le maire de Nancy, Laurent Hénard, est signataire en 2010 au moment des régionales, puis en 2014 au moment des municipales du pacte logiciel libre de l'April, et par lequel on appelle les personnes encore candidates à l'époque lors des élections à s'engager à promouvoir et à défendre le logiciel libre. Et donc on a plaisir à voir finalement que monsieur Hénard dans ses mandats finalement respecte et s'engage concrètement sur ce pacte. Et puis Frédéric l'a mentionné en introduction de l'émission, vous avez récemment été récompensé d'un label territoire numérique libre de niveau 5, le niveau maximum, et vous êtes en plus la première collectivité à obtenir ce niveau 5. Alors pour mettre, pour préciser, voilà, le label territoire numérique libre donc a été créé en 2016 à l'initiative de l'ADULACT, qui est donc l'association des développeurs et utilisateurs de logiciels libres pour les administrations et les collectivités territoriales, label dont l'April est membre du jury. Et c'est un label qui est destiné, voilà, à mettre en valeur l'utilisation des logiciels libres, systèmes d'exploitation libre au sein des collectivités territoriales françaises, ainsi que l'usage des données publiques ouvertes, accessibles et réutilisables, ce qu'on appelle souvent open data. Et donc, voilà, vous avez donc eu le niveau maximal. Donc, félicitations à nouveau. Peut-être en quelques mots, est-ce que vous pouvez justement présenter les motivations de cet engagement? Pourquoi est-ce que Nancy œuvre pour les logiciels libres? Finalement, pourquoi est-ce qu'elle a obtenu, selon vous, ce niveau 5?
Alors déjà, c'est un honneur. Hein. C'était notre deuxième participation. L'année dernière, nous avions obtenu le niveau 4. Et c'est vrai qu'on aura peut-être occasion d'y revenir, mais ces labels pour conduire une politique publique, ils sont capitaux, hein, puisque c'est important de pouvoir s'évaluer. Et c'est pas tant le label qui était important, même si c'est facile à dire quand on a le niveau 5, mais c'était surtout les recommandations pour progresser qui étaient importantes. Comme vous l'avez bien précisé, Étienne, c'est vrai que Monsieur le maire était signataire de la charte de l'April, ce qui a permis dès son élection dans le projet de ville de voir apparaître le numérique en bonne place et à chaque fois la notion du logiciel libre, à la fois dans le projet politique mais aussi dans le projet de l'administration. L'open source est synonyme de transparence, d'interopérabilité et de co-construction et de co-conception. Et c'est ça qui nous a aidé aujourd'hui à faire que le logiciel libre a complètement transformé le management interne de la collectivité dans sa création et dans son suivi et son développement. Et c'est vrai que c'est ce qui a conduit finalement, c'est-à-dire c'est une expérience réussie, hein, ce sont plusieurs expériences réussies, c'est des rencontres d'acteurs du libre qui portent des valeurs de transparence, de démocratie participative, de choses qui ont à la fois retenu une écoute forte de la part des politiques, mais aussi de l'administration et surtout des administrés.
Très bien. Alors, quand on préparait la mission, vous aviez fait une distinction que j'ai trouvée intéressante, parce que vous êtes, et je pense que vous pourrez d'ailleurs présenter, ça peut être intéressant, de ce qu'est finalement un directeur ville numérique à Nancy, et vous précisiez que vous n'étiez pas directeur système d'information, DSI, et ça serait quelque chose qu'on juge important, et qu'on était attentif plutôt lors de l'évaluation des différentes candidatures pour le label territoire numérique libre, c'est les relations finalement entre, on va dire, les élus et puis les équipes en interne, les équipes techniques et comment elles travaillent ensemble. Et il m'a semblé comprendre que justement vous avez une position intéressante. Enfin voilà. Donc, quel est le rôle d'un directeur ville numérique à Nancy ?
Alors, le rôle du directeur Ville numérique à Nancy, déjà, on évolue dans un environnement particulier. Nancy, c'est la ville-centre d'une métropole, hein, une métropole qui comprend 20 communes, hein, donc sur un bassin de vie de 280 000 habitants, et qui a, depuis 1999, a pris la décision de mutualiser son service informatique. Donc, il y a une DSI mutualisée pour 19 des 20 communes. DSI qui a pour mission, ben, traditionnellement, de mettre un environnement technique et technologique. Et c'est vrai que lors de l'élaboration du projet numérique de la ville de Nancy, il a été convenu que la technologie, elle devait se mettre au service de, et non pas être au cœur. Et c'est vrai que à partir de là, tout naturellement, l'idée d'une direction du numérique qui est centrée sur l'usager et sur les usages, avec des particularités de droit à l'expérimentation, de droit à l'échec. On essaie de pas trop en avoir, mais quelquefois on est qui dit expérimentation dit retour arrière par moment, qui a fait que du coup on a un mode de développement bien particulier et la DSI elle est un des partenaires parmi d'autres, c'est-à-dire on les associe sur des choix technologiques, mais pas forcément sur des choix d'usage. Et c'est vrai que la direction Nancy Ville numérique que j'ai la chance d'animer, eh bien, elle se situe directement au niveau du directeur général. Je suis donc membre de l'équipe de direction, une équipe de direction resserrée, puisqu'il y a 7 personnes, et qui est managée par un comité de pilotage présidé par Monsieur le maire et l'adjoint au numérique, qui se réunit régulièrement. Donc ça veut dire qu'il y a des circuits de décision très courts, des circuits d'information très courts, qui nous permettent justement de réagir vite sur les expérimentations.
En gros, c'est un sujet politique, c'est ce que vous me dites. La question,
absolument,
justement. Hein,
absolument. Absolument, et c'est ça. Et c'est vrai que très souvent, lorsque on intervient auprès de collectivités ou qu'on reçoit des collègues, c'est vrai, il est clair qu'une des raisons de la réussite, en dehors du fait qu'on est probablement très intelligent, mais ça je suis pas sûr en fait, c'est surtout que il y a eu un portage politique très fort en fait. C'est-à-dire que l'implication de Monsieur le maire, l'implication du directeur général et l'implication de l'équipe de direction fait que ça donnait du crédit à nos propositions, ça a été appuyé au plus haut niveau et ça permettait ensuite de donner du crédit à nos actions, finalement.
Très bien. Et finalement, dans tout ce que vous me décrivez, en quoi, finalement, le logiciel libre répond? Alors, j'ai pas besoin d'être convaincu, mais je pense qu'il peut être intéressant, justement, de montrer, finalement, que le logiciel libre, j'imagine, arrive en conclusion, mais comme un objet, justement, politique, et répond à des aspirations politiques.
De plus en plus aujourd'hui, l'habitant a plusieurs soucis parce que ça fait longtemps qu'on travaille dans ce domaine et on a vu les usagers et les habitants, les politiques et nos collègues fonctionnaires changer de paradigme et avoir faire que finalement. Avant l'informatique, il y a eu un moment donné, c'était le tout puissant, on pouvait imposer les fonctionnements. Aujourd'hui, c'est absolument plus le cas. On a des habitants qui sont éduqués, qui connaissent, qui ont l'habitude finalement de commander sur telle ou telle plateforme des produits qui viennent de n'importe où, de les suivre au quotidien. Et c'est pas forcément très évident de leur expliquer, par contre, que quand ils viennent déposer une demande de permis de construire, eh bien, ils mettent leur dossier dans une grosse boîte noire et ils doivent attendre 2 mois pour une réponse. Et c'est vrai qu'à partir de là, le mode de réflexion a été de dire essayons de donner de la transparence, de donner des garanties et de montrer et de rendre les choses faciles et interopérables. Et à chaque fois qu'on a mis ces conditions immuables, on est retombé sur l'idée du logiciel libre qui présentait toutes ses qualités, c'est-à-dire ses garanties de transparence, ses garanties d'interopérabilité et ses garanties aussi d'indépendance parce que tout le monde a le souci aujourd'hui de ses données, tout le monde a le souci, enfin en tous les cas, un usager, lorsqu'il confie ses données à l'administration, il est exigeant. Et c'est vrai qu'il fallait qu'on puisse répondre au niveau d'exigence de nos usagers.
Oui, c'est intéressant et ça m'évoque, et j'ai trouvé que c'était très intéressant quand on préparait l'émission, justement, vous évoquiez un argument qui est de dire, en fait, ce n'est pas seulement plus que du GAFAM et ce n'est pas seulement, on n'est pas seulement dans une réflexion d'alternative au GAFAM. C'est vrai qu'on entend souvent ces arguments qui ont certes une valeur, mais l'intérêt du logiciel libre va effectivement bien au-delà. Il permet de développer des usages spécifiques, c'est ce que j'entends en tout cas de ce que vous
tout
développez.
À fait. Tout
et,
à fait.
Et vous parliez, je pense que ça pourrait être assez intéressant de revenir sur cette idée de mutualisation et que je pense justement à un facteur très intéressant que permet le logiciel libre. Voilà, vous parliez effectivement différentes communes qui travaillent de concorde à développer voilà, des usages communs
Ben
et les outils
oui,
communs.
c'est ça. C'est-à-dire, c'est quand même dans l'intercommunalité, au niveau de la métropole du Grand Nancy, on va trouver la commune de Nancy qui fait 105 000 habitants, mais on va aussi trouver des communes plus modestes, avec des financements ou des niveaux d'organisation différents. Et pour autant, chacune d'elles est contrainte par le code des marchés publics, des procédures d'achat très réglementées, hein, sans rentrer dans le détail. Mais c'est vrai que l'existence du logiciel libre permet effectivement très facilement de travailler ensemble, de paramétrer, de... Finalement, on n'achète pas de licence, on achète de la formation, on achète de la prestation, on achète de l'accompagnement. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui permet à tous de travailler ensemble. On avait la joie ce matin, finalement, de préparer la réunion de lancement pour la métropole du Grand Nancy qui se lance dans la même dans le système de gestion de relations citoyens qu'on utilise depuis 3 ans. Et voilà. Et en fait, ça permet d'ajuster les pratiques, de s'harmoniser et surtout d'avoir un management qui est concret, concrètement centré sur l'utilisateur. C'est-à-dire trop souvent, les outils qu'on a eus jusqu'ici, ils étaient trop fixés, trop figés. Et c'est vrai que là, le logiciel libre, eh bien, on rencontre des prestataires qui sont tournés vers l'utilisateur et qui ne sont pas tournés vers leur chiffre d'affaires.
Ce qui m'évoque d'ailleurs un argument aussi, un autre argument qu'on défend souvent lorsqu'on parle de logiciel libre et de collectivité, souvent on dit que le logiciel libre, que les prestataires logiciels libres en fait sont beaucoup plus souvent inscrits dans les tissus économiques locaux. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez également à Nancy? Est-ce que justement vous travaillez de manière plus locale avec
Alors, non, nous on ne peut pas dire qu'on travaille plus sur l'aspect local, puisque malgré tout, puisqu'on a toute la quasi-totalité de la chaîne relation usagers qui est basée sur le logiciel libre et des logiciels qui communiquent entre eux, on a des je veux dire le sujet local n'est pas un critère de choix. Par contre, ce qui est net, c'est qu'on voit maintenant dans nos relations avec l'université, dans nos relations avec les formations, beaucoup plus de stagiaires, le département de l'IUT de Nancy qui a développé une licence professionnelle logiciel libre, qui se rapproche de nous pour faire pas mal d'actions, des écoles d'ingénieurs, ainsi de suite. Je dirais qu'on les verrait plutôt dans ce sens-là. Par contre, sur les prestataires locaux, c'est pas tout à fait le cas puisque malgré tout, on cherche à avoir des solutions partagées avec d'autres collectivités de taille similaire.
Entendu. Alors, puisqu'on parle aussi de mutualisation, ainsi de suite, il y a un aspect qui est important et qui était aussi d'ailleurs au cœur de l'évaluation des candidatures pour le territoire numérique libre, qui est la question, voilà, des données publiques. Il m'a semblé que Nancy agissait en ce sens. Voilà, donc, on peut rappeler hein, l'enjeu. Alors, souvent on parle d'open data, c'est déjà de rendre effectivement les données publiques, hein, qui sont d'ailleurs les données produites par les administrations, sont de droit accessibles au public et
Absolument.
Elles doivent être n'importe qui et doivent également être en mesure de les réutiliser. Alors, comment tout cela s'inscrit dans la politique ville numérique de Nancy?
Alors là, pour le coup, depuis 3 ans, dans le cadre de ce projet de développement numérique, à la ville, on a désigné un DPO, un data qui un data manager qui suit les données, et on a fait le choix de prendre quelqu'un qui est issu du service des archives. C'est-à-dire que on a cherché, on a essayé de comprendre, et on s'est dit que les personnes qui étaient les plus à même dans la collectivité à gérer les données, c'était pas les informaticiens, c'était les archivistes, parce qu'eux ont une autre façon d'appréhender les données. Et depuis donc 3 ans maintenant, tous les projets numériques, dès le début, sont suivis par cette personne-là, qui présente du coup, qui fait la cartographie au coup par coup, et qui nous permet à ce tour-ci d'avoir finalement déjà une première vision intéressante de nos données. Et depuis donc maintenant plus de 6 mois, on a décidé de proposer à la métropole du Grand Nancy de mutualiser et la création d'une plateforme commune. Et donc la métropole a pris l'initiative donc de créer une plateforme open data commune. Et pour ne pas déroger à notre règle, on a fait le choix d'une plateforme bien entendu libre. hein, de la plateforme qui est faite par le prestataire Data for Citizen, que c'était intéressant aussi d'avoir une plateforme open data libre. Donc là, cette plateforme est en train de se monter et sera mise à la disposition de l'ensemble des collectivités, avec un rôle, j'allais dire, un petit peu d'évangélisation que notre archiviste aujourd'hui fait dans les différentes communes de l'agglomération avec nos collègues de la métropole.
Quand vous dites accessible aux différentes collectivités, j'imagine qu'elles ne seront pas seulement accessibles aux collectivités, vous dire qu'elles seront réutilisables par les...
Elles pourront, oui, bien sûr, à la fois, je ne me suis pas exprimé, je vous prie de m'en excuser, ils auront la possibilité de déposer leurs données, c'est-à-dire là, on a rédigé un certain nombre de guides sur les données essentielles, sur comment travailler auprès des services pour que ce soit les services qui soient moteurs dans leur dépôt des données. Et donc ils auront à la fois la possibilité de déposer des données et à la fois la possibilité, bien entendu, de les utiliser ou de les consolider.
Oui, on sait que c'est important justement aussi que les données soient mises de manière, à dire, propre, facilement accessibles, facilement, enfin, dans un format qui soit facilement réutilisable, facilement recherchable, notamment. Et je pense que c'est intéressant du coup ce que vous disiez sur les archivistes, car on imagine bien qu'il s'agit de rechercher sur des jeux de données, des données qui peuvent être très importantes en nombre, très hétérogènes, d'avoir une plateforme qui permet de s'y retrouver facilement et donc une formation pour les personnes qui vont déposer ces données de manière à le faire de manière cohérente et rationnelle est effectivement un facteur important. Alors, du coup, vous avez commencé à constater des usages intéressants qui se développent à partir de la société civile de ces données ou c'est encore trop récent?
Alors c'est encore récent, par contre il y a beaucoup de contrôles. Là on parlait tout à l'heure du milieu économique, là par contre le milieu économique se manifeste très rapidement, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre de start-up locales, hein, de pépinières d'entreprises, de choses comme ça, et là par contre il y a beaucoup de demandes, en particulier sur beaucoup de données cartographiques, hein, j'allais dire même avant d'avoir eu la plateforme, beaucoup de données ont été déposées sur OpenStreetMap, hein, pour rendre les données déjà libérées avant de disposer de la plateforme officielle. Et là, on a pas mal de startups qui se sont intéressées et qui utilisent nos données et qui en réclament d'autres, naturellement. En particulier, il y a beaucoup de demandes autour des différentes fréquentations de nos établissements culturels. Parce qu'il y a une société qui essaie de faire quelque chose autour de ce domaine-là. Donc il y a aussi un travail, c'est aussi dans la même lignée que le travail que je citais tout à l'heure autour de l'université sur les formations, les stages et ce genre de choses.
Super, d'accord. Alors d'ailleurs, je vais revenir sur un terme que j'avais pas parlé. Effectivement, j'avais évoqué les GAFAM, mais pour nos auditeurs et auditrices, préciser qu'il s'agit donc d'un acronyme qui nous permet en général de référer à Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, et plus largement à toutes ces super, enfin multinationales des technologies souvent privatrices. Et d'ailleurs, de ce point de vue, est-ce que vous avez eu lors de tout ce la mise en œuvre de vos différentes politiques numériques, d'ailleurs, pourrait être intéressant d'avoir un retour d'expérience après voilà plusieurs années maintenant. Quels freins vous avez pu rencontrer, est-ce qu'il y a des succès particuliers, des surprises, finalement des choses où vous pensiez devoir lutter qui se sont mis en place de manière plus simple que prévu et particulièrement bien accueillies. Qu'est-ce que vous voulez en dire?
Alors, honnêtement, souvent, la première action forte qu'on a lancée, c'est le choix de la gestion de relations citoyens. Globalement, on l'avait résumé dans un premier temps à la mise en place de formulaires en ligne et le suivi des demandes. Et ça a été fait sur la base d'une plateforme en logiciel libre. Et ça a été une vraie réussite du fait de la conduite du projet avec des ateliers, avec des résultats évidents. C'est-à-dire qu'en 3 mois, 60 démarches en ligne et très très vite plus de 150 agents qui l'utilisent. Ça a été le succès. Et c'est vrai qu'on dit souvent que ce genre de projet, quand il démarre par une success story, c'est assez facile. Les freins, ils sont venus, on les a, on en a encore, hein, malgré les réussites. Le premier, ben, il vient de la culture informatique de notre DSI, hein, qui eux sont basés sur du logiciel libre, pardon, sur du logiciel purement propriétaire, avec des applications classiques de comptabilité, de finance, d'urbanisme. Et là, il y a une petite crainte, l'absence de sécurité, le logiciel libre c'est pas sécurité, il y a des failles, des choses comme ça. Donc ça, on a dû montrer, prouver, expliquer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ces freins-là sont tombés un peu les uns derrière les autres. Ils sont encore un petit peu réticents de temps en temps pour faire la maintenance. Ils nous disent que si on a choisi, on n'a qu'à se débrouiller. Mais bon, ça, les mentalités avancent bien du fait du succès. La deuxième difficulté qu'on a rencontrée, on migre la totalité de notre parc, enfin la quasi-totalité de notre parc bureautique de la suite Microsoft vers la suite LibreOffice. Ça représente quand même 800 postes. Et là, il y a quand même dans l'inconscient collectif l'impression qu'on est en train de leur mettre une version à bas coût, que c'est parce qu'on veut gagner de l'argent, parce que... Et là, il faut expliquer, accompagner. Et je dirais que l'individu, tant que c'était des applications, ça ne l'a pas dérangé. Lorsqu'on est sur la suite bureautique, on rentre presque dans l'intime. Hein. Et là, on a eu un peu plus de difficultés. L'accompagnement est un peu plus long. Sur une opération, on pensait qu'un an nous suffirait pour faire cette migration. On est à 18 mois actuellement.
D'accord. Et pour faire ces formations, c'est quelque chose que vous faites en interne? Vous faites appel à des compétences, des connaissances externes?
Alors là, comme c'est au début, on est parti sur de l'externe, sur la formation LibreOffice, et puis assez vite, on a vu qu'il fallait un accompagnement beaucoup plus personnalisé. Et donc dans ce cadre-là, maintenant, on a embauché une personne qui s'est formée et qui accompagne, et qui fait du coaching, qui anime des ateliers réguliers maintenant. Donc on utilise les technologies aussi qui sont liées au brainstorming et à l'innovation, c'est-à-dire on organise des petits déjeuners du libre, des ateliers réguliers, des sensibilisations, des tutoriels, enfin très classiques, mais il y a un accompagnement au quotidien.
D'accord. Oui, c'est ce qui nous semble effectivement essentiel. On commence à toucher finalement à quelque chose d'extrêmement important et sur lequel je voulais qu'on passe un peu de temps, justement à cette notion de comment ça se passe en interne par rapport à vos agents, dans l'accompagnement, et ça vous avez commencé à l'évoquer. C'est quelque chose qu'on voit souvent, hein, que les politiques d'accompagnement au changement, comme on les nomme souvent, sont fondamentales et on voit que ça peut être difficile et que ça peut prendre du temps. Et parfois, c'est d'ailleurs quelque chose qu'on nous oppose comme étant les politiques, les coûts cachés du logiciel libre. Et d'ailleurs, vous avez commencé également à parler, que ça dépend plus un déplacement des coûts, et on voit bien que c'est donc un investissement. Ouais.
C'est clairement. Alors là, à aucun moment on a déployé l'argument coût dans dans les raisons du choix du logiciel libre. On ne souhaitait pas que l'argument de dire c'est des solutions au rabais, forcément, ça on voulait pas que ça soit utilisé. On voulait pas que ça soit utilisé, mais en plus ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. C'est simplement, comme vous l'avez dit fort justement, un déplacement des coûts, c'est-à-dire l'argent qu'on ne met pas dans l'achat de licence, on le met dans l'acquisition, de prestations d'accompagnement, dans la personnalisation, et ça fonctionne très très bien. Je cite toujours le cas de la gestion de relations citoyens. Aujourd'hui, on a 250 utilisateurs journaliers qui sont dessus tous les jours, et on n'a pas fait de formation en tant que telle. On a animé des ateliers, beaucoup d'ateliers de personnalisation, des ateliers de gestion des workflows, des ateliers, et on voit que c'est bien, l'appropriation s'est faite de façon naturelle et c'est bien plus facile. Et ce qu'on constate aussi, c'est que comme on peut faire plus d'ateliers, comme on peut faire plus de choses, eh bien on remet les gens à niveau. L'arrivée de LibreOffice permet, par exemple, de reformer les gens à des fonctions qu'ils ignoraient. On a, dans une maison comme la nôtre, où il y a 1300 agents, des gens qui sont arrivés en poste, qui se sont mis devant un ordinateur, puis qu'on fait avec ce que le voisin leur avait expliqué, puis ça tournait comme ça, quoi. Là, l'arrivée de LibreOffice nous permet de les reformer, de leur remontrer ce que c'est qu'un public postage, un tableau dynamique croisé, enfin, vous voyez, des choses comme ça qui font que, en plus, ça s'accompagne d'une montée en compétences. On le constate pratiquement sur toutes les opérations qui ont été faites. La mise en œuvre de logiciels libres fait que on amène les gens à travailler entre eux, à reparler, à retravailler sur leur poste et leur mission, sur comment les logiciels doivent causer entre eux, et on a une montée en compétences.
Ouais, c'est très intéressant. Souvent, on parle de logiciels libres comme des vecteurs d'émancipation, et là, on voit de développement des agents en montée en compétences. Donc, je pense que c'est plus valorisant aussi dans leur travail. Donc, ça, c'est
Ah,
intéressant.
complètement.
Je vous propose après, on pourra peut-être évoquer un peu plus en détail la question de l'acquisition et de vos politiques et comment justement vous acquirez priorité, j'imagine, du logiciel libre. Mais avant cela, peut-être nous allons faire une courte pause musicale.
Nous allons effectivement faire une pause musicale pendant cette passionnante discussion. Nous allons écouter Hard Country par Ton House Woods. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune.
Cause Commune
93.1. Contain me long, for I got a mind to make these bastards pay. Don't you come round throwing lead, lest your wish is to get dead. Don't tell no lies. Oh, and God can't save you here. He moved back east last year. Yeah, the dust will swallow up your mournful cries. This year is hard country. If you don't take these words to heart, you'll find your share of teachers give you some lessons round these parts. I tell you, no amount of right gonna justify your lies. I can see right through you and that glass you pour. We can settle this like men, bring these troubles to an end. And I can learn you to keep your eyes off what ain't yours. This here is hard country. If you don't take these words to heart, you'll find your share of teachers give you some lessons round these parts. You say the town you're in can't hold you. Come on out to Canastota. Yeah, the long arms of the law don't reach us here. And if you really wanna try me at the U Bar, in you'll find me. Room 11, just me and my six gun, we're drinking beer. And this here is hard country. If you don't take these words to heart, you'll find your share of teachers give you some lessons round these parts.
Nous venons d'écouter Hard Country par Ton House Woods, disponible sous licence Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Mon collègue Étienne Gonu échange en ce moment avec Olivier Simon, directeur de Nancy Ville Numérique, sur la stratégie logiciel libre et données publiques de la ville de Nancy, et je leur repasse la parole.
Merci Fred. Olivier, donc je pensais qu'il serait intéressant d'évoquer avec vous la politique finalement d'acquisition. Comment est-ce que vous acquérez du logiciel et comment vous faites en sorte d'acquérir plutôt du logiciel libre? Est-ce que vous avez finalement une procédure spécifique ou c'est dans le cahier des charges?
Alors, bon, pour les gens qui ne connaissent pas, dans l'achat public, on a une obligation de mise en concurrence, donc réaliser des marchés publics, ça veut dire écriture d'un cahier des charges, publication d'un appel d'offres, et puis ensuite choix des prestataires sur des critères qui sont déterminés par avance. Il est certain que lancer un appel d'offres en disant « je souhaite un logiciel libre » est un critère qui ne convient pas. On ne peut pas se permettre de faire ça. Et donc, comment on procède ? On procède finalement différemment aujourd'hui. La première phase, bon, c'est toujours une co-construction des besoins, donc avec des groupes utilisateurs, des usagers lorsque c'est possible et lorsque le domaine le permet. Et ensuite, on élabore les besoins et on observe, on regarde un peu ce qu'il y a sur le marché. Et ensuite, une fois qu'on s'aperçoit, on trouve un logiciel libre qui convient, eh bien, on lance des appels d'offres, non pas pour choisir le logiciel, puisque finalement, on vient de le choisir, mais plutôt pour chercher un prestataire qui va nous installer ce logiciel. C'est une procédure tout à fait légale, hein, mais qui nous permet d'être conforme à la législation. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, par contre, dans ce cahier des charges, ce que l'on souhaite, c'est toujours, on fait l'acquisition de prestations à la fois d'installation et d'accompagnement, mais aussi des prestations de maintenance. C'est-à-dire que tous les logiciels que l'on a acquis font l'objet de contrats de maintenance pour assurer, l'équilibre économique de notre prestataire et puis de notre partenaire, plutôt d'ailleurs, je devrais dire.
Et c'est intéressant, effectivement. Alors, il y a eu un arrêt, il y a des juristes qui nous écoutent, et sans rentrer dans les grands détails, il y a un arrêt qui est important du Conseil d'État qui, justement, précise ce que vous avez dit. C'est-à-dire que il dit très clairement qu'il est possible pour une collectivité de prendre un logiciel libre, et puisque c'est un logiciel libre qui est librement accessible à toutes, dont les spécifications sont connues, de faire finalement un appel à prestation sur ce logiciel libre. Et en fait, finalement, on n'acquiert plus un objet, mais on va plutôt aller chercher de l'intelligence, chercher un savoir-faire.
Un marché de prestation de services et non plus un marché d'acquisition de logiciels. Ce qui permet donc, ensuite, lorsqu'on veut mutualiser que ce soit nos collègues du Grand Nancy ou d'une autre commune, ils peuvent du coup imposer dire on prend le même logiciel, simplement ils n'ont pas obligation de prendre le même prestataire, puisque s'ils trouvent un autre intégrateur, le problème n'est pas même. Mais du coup on peut se causer facilement. Et ça c'est vraiment la solution qui nous permet maintenant d'avoir quelque chose de très fiable. Mais je réinsiste bien sur la notion, on fait bien le choix d'avoir des logiciels avec des contrats de maintenance. C'est-à-dire qu'il faut qu'on continue à travailler ensemble, il faut qu'on continue à avoir une prestation et un travail de partenariat avec des rémunérations qui sont à la hauteur de nos demandes, quoi.
Et est-ce que vous avez une politique peut-être de développement en interne ou tout ce que...
Non, pour le coup, on a peu de politiques de développement. Ce que l'on fait, c'est une politique plutôt de façon très régulière. On fait développer des connecteurs, on fait développer des fonctionnalités qui, bien entendu, sont forcément remises immédiatement sur les forges, remises dans le domaine du libre. Mais nous n'avons pas une politique de développement. C'est-à-dire, on est une toute petite équipe de 5 personnes et quelques stagiaires nous font des petits modules, des petites adaptations, mais sans grandes ambitions, quoi.
Et alors, cette politique de remettre sur les forges, genre les forges, c'est finalement des espaces en ligne, des plateformes où on met les codes en ligne pour qu'ils puissent être réutilisés par d'autres et où finalement un logiciel va être développé de manière collaborative en ligne. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour le logiciel libre. Alors, c'est une vigilance que vous avez pour que les prestataires le fassent ou les prestataires, vous laissez faire les prestataires qui le font généralement. C'est plus un constat ou s'il y a une action volontaire
Ça fait partie des choses que l'on... Enfin, je dirais... il faut absolument que ça soit fait par les prestataires. C'est demandé parce qu'il faut qu'on reste. C'est la notion des biens communs, quoi. Non, c'est vraiment, ça fait partie du cahier des charges et des contrats qu'on fait ensemble.
Ouais. Alors, vous parliez de nouvelles fonctionnalités. Ça, c'est comment les agents publics sont inscrits là-dedans. C'est eux qui font remonter des besoins, j'imagine. Est-ce qu'il y a un processus qui est mis en place, une procédure qui est mise en place pour ces remontées de besoins?
Alors, oui, clairement, c'est-à-dire que Là, on va remonter un petit peu d'un cran. C'est vrai qu'après avoir constaté le bénéfice qu'on tirait de ce fonctionnement par atelier, de ces fonctionnements récurrents, eh bien, on a souhaité développer ça sur l'ensemble des projets. Et assez vite, on s'est aperçu, et la mission Nancy Ville Numérique, finalement, a recruté un ingénieur innovation. Et cet ingénieur innovation, puisqu'il s'agit d'une jeune femme, accompagne l'ensemble des projets dans leur suivi en organisant des modules d'expression et de co-construction et de suivi de l'ensemble des applications. Ce qui nous permet d'avoir des panels utilisateurs. À titre un exemple bon, qu'on cite souvent parce qu'on est assez fiers de ça, mais sur les services en ligne, on a un panel testeur d'accessibilité. Hein, il s'agit d'une dizaine de personnes suivies par le Centre communal d'action sociale qui sont soit porteurs de handicap, soit en situation de grande difficulté sociale et qui testent de façon très régulière nos services en ligne, ce qui permet en permanence d'avoir des ateliers pour les modifications et de remonter ensuite à la société entrouverte les difficultés qu'on rencontre, soit sur les termes graphiques, soit sur des simples libellés, des phrases trop longues, des termes inappropriés, du jargonnage, y compris dans les formulaires, enfin des choses comme ça. C'est vrai que, et là, nous, on est intimement persuadés que c'est cette philosophie du libre qui nous a amené à tout doucement basculer vers ces techniques d'innovation permanente.
Innovation permanente, intéressant. Est-ce que vous pouvez développer sur cette idée?
Eh bien, c'est-à-dire que finalement maintenant, tous les projets se font sous la forme de réunions, de co-design, de co-construction, ce qu'on appelait il y a quelque temps finalement du brainstorming, mais avec des méthodes qui sont adéquates, c'est-à-dire que ce sont des groupes qui vont élaborer du maquettage, des possibles, et qui du coup, sur la base des logiciels que l'on dispose, vont pouvoir imaginer de nouvelles fonctionnalités et ensuite les proposer aux différents concepteurs.
Ah, et c'est vrai qu'on entend... Bonjour, je vous écoute.
Pardon,
on vous écoute.
Oui, et du coup, c'est vrai que le fait qu'un certain nombre d'usagers soient présents ou d'associations, ça nous aide finalement à être au plus près de l'usager. Et c'est vrai que la souplesse des éditeurs de logiciels libres, des concepteurs de logiciels libres, nous permet d'imaginer ça. Ce qu'on ne peut pas, enfin, ce qui est beaucoup plus compliqué de faire avec des logiciels propriétaires, puisque il y a des enjeux économiques forts, il y a des choses comme ça qui font que ils ont leur roadmap sur des mois et ils ne veulent pas en bouger, quoi.
Ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, et cette manière de se réapproprier cette notion d'innovation, c'est un terme qu'on entend un peu à tout bout de champ et on sait plus, qui est un peu vidé de son sens.
Oui.
Et cette manière de se le réapproprier collectivement, de repartir finalement, voilà, de la pratique des agents, du vécu des utilisateurs et des utilisatrices, et je trouve que ça redonne sens et ça montre aussi l'intérêt, enfin, ce à quoi répond le logiciel libre et comment justement c'est des objets communs qui permettent une réappropriation collective d'un outil dont finalement on est tous dépendants dans nos relations sociales, dans nos relations avec les administrations et les collectivités. Et donc c'est très intéressant comme approche, je trouve, et ça répond bien finalement aussi à l'enjeu du logiciel libre. D'ailleurs, on a pas mal parlé, là, le temps file, on a pas mal parlé de ce qui passe en interne. Vous aviez déjà aussi un peu commencé à évoquer les relations, enfin dire l'aspect plus externe du coup, la relation avec les usagers, avec les administrés, et comment une politique, une ville numérique tournée vers liberté informatique, comment ça s'inscrit du coup du point de vue dans la relation aux usagers.
Alors les relations aux usagers, bon, on essaie de, ils sont beaucoup sensibilisés, on communique pas mal sur la notion de logiciel libre et sur la notion aussi de transparence. Et c'est vrai qu'il y a un rôle. On s'est refusé à ce que notre projet s'appelle Smart City parce qu'on trouvait que c'était un terme tarte à la crème. Et quant à être smart, on a préféré travailler sur la notion de smart citoyen. C'est-à-dire qu'on s'est dit que avant de se lancer dans la Smart City, il fallait peut-être déjà qu'on montre que nos usagers étaient assez compétents pour ensuite nous aider à définir ce qu'ils attendaient sur la Smart City. Et donc, dans ce cadre-là, tout un grand nombre d'associations, mais essentiellement, je pense à l'Office des personnes âgées et puis à notre médiathèque bibliothèque, font beaucoup d'initiations autour du logiciel libre. OpenStreetMap est souvent invité pour faire des cartes aux parties, enfin, des choses comme ça. Donc, une grosse sensibilisation dans ce domaine. Et puis aussi, un rôle qu'on assume tout doucement, d'évangélisateur au niveau de la région Grand Est, puisqu'on fait pas mal d'événementiels, dont pour nous c'est important, un événementiel une fois par an qu'on appelle le Libre sur la place, sur cette belle place Stanislas à Nancy, où on réunit les acteurs publics, on est entre 150 et 200 personnes, et on réfléchit sur... on montre que c'est possible, et en novembre dernier, nous avions par exemple la Gendarmerie nationale qui avait expliqué que c'est possible. Oui, c'est possible, c'est pas pour les petits, c'est pas pour les gros, c'est pour tout le monde peut faire. Et de dire que plus on sera autour de ça, et plus on va pouvoir fédérer, faire des groupes de plus en plus larges, et plus loin on pourra avancer.
Alors la notion, vous parlez de carte au parti, alors c'est vrai que la notion de parti est souvent utilisée, j'ai l'impression, dans les communautés du libre, cette idée finalement de travail en commun. Alors j'ai plus d'émissions spécifiques en tête, mais on avait fait une émission, on avait pas mal parlé, notamment avec les personnes d'OpenStreetMap, on avait fait il était question de ces cartes au parti, et on mettra le lien sur le site de l'April, et je pense que c'est une très belle illustration de travail en commun. Donc là il s'agit, peut-être que vous pourrez développer si vous le souhaitez, mais j'imagine d'utilisateurs et d'utilisatrices de cet outil qu'est OpenStreetMap qui se mettent en commun justement pour améliorer les cartes, améliorer finalement leurs cartes de leur lieu de vie.
Là, le dernier exemple en date, un conseil de quartier qui avait envie de créer des itinéraires de découverte d'un des quartiers, qui n'était pas le quartier le plus touristique de Nancy, mais qui estimait qu'il y avait un certain nombre de jardins remarquables en arrière-cour, et qui est, par le biais d'une carte au parti, a établi des parcours de découverte avec l'aide de nos collègues d'OpenStreetMap, et là on a une vraie dynamique qui s'instaure, et aussi une culture du collaboratif, c'est-à-dire comment on peut faire ensemble, et ça c'est vraiment quelque chose qui, par la suite, et ces mêmes personnes vont assez vite se proposer lorsqu'on veut travailler sur des nouveaux logiciels ou des nouveaux services.
Alors juste pour préciser, donc l'émission c'est celle du 11 juin 2019, l'émission 29. L'émission, nous avions reçu des personnes d'OpenStreetMap. Vous parlez de cette culture du collaboratif. Est-ce que vous avez senti un développement, une prise en main de ces sujets par la population de Nancy, une appétence qui se développe, des initiatives nouvelles depuis que vous menez finalement ces politiques tournées vers le logiciel libre?
Alors, après, il y a les usages traditionnels, on va trouver les usages traditionnels des réseaux sociaux, mais il y a plusieurs domaines qui finalement ont fait des choses intéressantes. Il y a tout un travail autour des amis des musées, des associations des musées, sous l'animation de l'équipe des musées, mais il y a eu tout un travail au niveau de ce qui a été appelé un Wikiton, c'est-à-dire une mise à jour de Wikipédia et de Wikimedia, surtout la description de toutes les œuvres d'une grande partie des œuvres des différents musées. Ça a été une culture, et du coup ce sont des groupes qui continuent maintenant à travailler, c'est-à-dire ils ont été formés avec les équipes du musée, et ils viennent enrichir maintenant cette grande encyclopédie collaborative. Et puis on va trouver aussi les conseils de quartier, donc 7 conseils de quartier qui finalement se sont auto-saisis de la plateforme de participation digitale, qui bien entendu est une plateforme logicielle libre, pour s'en faire des dispositifs propres à eux. Et aujourd'hui, ils sont capables d'organiser des concertations, ils sont capables d'organiser des débats collaboratifs en prévision de leurs assemblées générales. Et on voit que c'est quelque chose qui, au fur et à mesure, cette culture prend. C'est-à-dire qu'on a des gens qui ont envie de faire plus et qui imaginent des usages auxquels, par exemple, pour les conseils de quartier, on n'avait pas forcément pensé nous-mêmes. C'est eux qui sont venus nous solliciter. Et c'était vraiment très intéressant.
Tout l'intérêt du logiciel.
Et pour le coup, le fait que ce soit logiciel libre, c'est simple à mettre en œuvre. On n'a pas de coûts supplémentaires. On peut leur mettre facilement à disposition. On n'a qu'à les accompagner en termes de formation. Et ça s'est très bien passé.
C'est de belles illustrations. Alors, il nous reste quelques petites minutes. Est-ce qu'il y a un sujet en particulier que vous souhaiteriez évoquer ou développer?
Écoutez, je crois que c'est un peu, j'en ai parlé rapidement, c'est aujourd'hui pour les collectivités territoriales, il y a une grosse sollicitation de la part de grosses entreprises pour ce qu'on appelle, surtout pour des collectivités de notre taille, sur la Smart City, finalement, Smart City, des outils, Hypervision, et ainsi de suite. Et tout ça, nous, on trouve que on est à côté. Enfin, c'est pas ça qu'il faut, c'est pas ça dont on a besoin. Et c'est vrai que à côté du logiciel libre et d'un gros projet de transition écologique, aujourd'hui, on travaille beaucoup à travers le logiciel libre justement sur la notion d'informatique et de numérique responsable. Et c'est vrai que la notion de responsabilité sur l'impact carbone du numérique, sur des choses comme ça, et c'est vrai que le logiciel libre en lui-même nous permet maintenant d'avoir un nouvel axe de travail sur le projet de transition écologique de la ville. Et à travers ça, du fait que on a des logiciels qui doivent maintenant non seulement être libres, mais être aussi conforme à des règles d'éco-conception, de consommation, d'interopérabilité. Et c'est quelque chose sur lequel on est très très intéressé. On regarde de très très près les travaux du nouvel institut du numérique responsable. Et on leur a le sujet du numérique et de l'open source à travers la notion d'écologie est quelque chose qui nous paraît aujourd'hui un sujet très très important et qui quelquefois est complètement oublié au profit des smart cities où on fait plutôt un concours de capteurs dans la ville à celui qui a inventé un nouveau capteur sans trop savoir ce qu'on allait faire, mais surtout content parce que personne n'y avait pensé.
Oui, alors c'est vrai que souvent quand on entend parler de Smart City, alors vous parliez d'un terme tarte, je pense qu'on peut, je ne peux qu'être d'accord sur, c'est vrai que c'est un côté très marketing, et vous parliez de capteurs, effectivement, et on voit une inquiétude grandissante parmi les défenseurs, les personnes qui défendent les libertés informatiques, hein, les Smart
Bien
City qui apparaissent comme étant surtout, qui s'inscrivent plutôt généralement dans des politiques sécuritaires de contrôle, et donc finalement on crée des villes assez aliénantes et complètement aplaties, déshumanisées, et de réintroduire avec ce que vous évoquez fort juste titre un numérique responsable, mais qui appartient aux citoyens et aux citoyennes, qui appartient aux populations, me paraît non seulement intéressant mais assez fondamental. Et peut-être aussi, ça veut dire, quand on parle de responsable écologique et ainsi de suite, ça veut peut-être aussi dire, vous pourrez me corriger, mais peut-être un meilleur numérique, moins de numérique aussi, puisqu'on
bien
sait
sûr.
Bien qu'il faut des...
Bien sûr. Pourquoi mettre... C'est pour ça que la notion souvent d'hypervision... On a le même phénomène qu'on a eu à un moment donné sur les services informatiques. Maintenant, une hypervision, mais pourquoi avoir une hypervision? Enfin, déjà, ce terme est bizarroïde, mais en plus, pourquoi faire, quoi? C'est-à-dire, et c'est en cela où, quand on explique qu'on a des smart citoyens, des gens à qui se sont appropriés des produits, maintenant, on va pouvoir leur demander ce qu'ils veulent et comment ils veulent qu'on les utilise. Et à ce moment-là, on va leur faire des choses qu'ils pourront contrôler et qu'ils font bien ce qui est attendu. Et on est bien dans la définition de l'open source.
Alors du coup, ça c'est ce projet, c'est quelque chose que vous faites vraiment plutôt, c'est centré sur Nancy, c'est quelque chose que vous essayez de faire à plus grande échelle,
non.
Peut-être avec d'autres collectivités.
C'est quelque chose qu'on essaie de faire à plusieurs collectivités, hein, parce que là, pour le coup, il est nécessaire que on arrive là sur des projets, sur des produits qui doivent rentrer dans le bien commun. Et pour ce faire, on travaille ou on commence à travailler avec d'autres collectivités qui ont à peu près la même vision. Et en l'occurrence, on va en reparler là très prochainement puisque on a une rencontre à Nevers la semaine prochaine. Et c'est vrai que par exemple une ville comme Nevers a des initiatives et a des idées qui sont très proches des nôtres et on se dit il faut qu'on travaille ensemble aujourd'hui. Il y a des gros groupes aujourd'hui qui démarchent tous les maires de toutes les grandes métropoles pour leur proposer des solutions clés en main avec le contrôle de l'éclairage, pourquoi pas de la reconnaissance faciale ou choses comme ça. Il faut que nous, on puisse travailler différemment, mais tout en ayant, j'allais dire, suffisamment de force pour pouvoir répondre aux attentes des élus qui veulent bien qu'on réfléchisse, mais qui veulent aussi qu'on ait des résultats.
C'est sûr qu'il y a un marché qui se développe là-dessus avec des problématiques en termes de respect des données personnelles, d'intrusion dans l'intimité des personnes, et donc d'où la nécessité aussi que les pouvoirs publics s'investissent sur ces questions et un vrai rapport politique sur les usages que ça permet, sur l'intérêt de ces usages, pas seulement finalement en termes de praticité, sécuritaire, etc., mais ce que ça signifie politiquement et comment on se les accapare et comment on intègre, j'imagine, les populations dans ces décisions et dans la définition
Absolument.
Des usages pertinents. Alors, vous parliez de Nevers, on peut citer d'ailleurs Nevers comme étant également labellisé territoire numérique libre.
Territoire numérique libre niveau 4, avec des acteurs très forts.
Mais je vous avais interrompu, pardon. Sur les
non,
sur la capacité des populations à se ressaisir de ce sujet. Enfin, cela dit, vous aviez déjà pas mal évoqué cette question, mais
oui, voilà, oui, c'est ça. Et c'est vrai que, et puis, dans la notion d'informatique responsable, de numérique responsable, il y a aussi la notion d'inclusion numérique, c'est-à-dire que tous ces outils-là doivent aussi toujours donner le pendant numérique responsable. Et je l'ai pas dit, mais tout ce développement de services numériques et de mise en place ne s'est jamais fait ici au détriment de l'usage traditionnel, j'allais dire guichet. Et c'est vrai que c'était une contrainte forte du maire de Nancy, mais aucun service ne se fait exclusivement en ligne. On peut faire pratiquement tous les services, toutes les démarches, vous pouvez les faire en ligne, mais il n'y en a aucun qui se fait exclusivement en ligne. Et c'est vrai que derrière, pour nous, le média universel, c'est le téléphone. C'est-à-dire que c'est le téléphone, et donc du coup, il y a tout un travail qui a été fait pour que lorsqu'il y a des choses qui doivent se faire en ligne, elles se font via le téléphone avec des intermédiaires, des médiateurs, des choses comme ça, voilà.
Très intéressant. Alors peut-être, puisque vous parliez sur la notion d'accessibilité, on sait que c'est une question qui est difficile. Est-ce que vous avez peut-être un mot rapide sur la question ?
Alors oui, il y a la prise en compte permanente de l'accessibilité dans le respect des règles classiques. Il y a ces fameux testeurs d'accessibilité dont je vous ai parlé. Là c'est l'humain, c'est-à-dire qu'on a beau avoir des sites qui respectent le RGA niveau 2, niveau 3, niveau or, niveau bronze, puisque les choses évoluent au fil du temps.
Référentiel général d'accessibilité.
C'est-à-dire que ce sont des normes, le référentiel général d'accessibilité qui est un référentiel qui donne les règles techniques et technologiques pour qu'un site internet et tous les sites publics soient accessibles aux personnes en situation de handicap. Avec des couleurs, des conditions d'agrandissement, de choses comme ça. Mais c'est vrai que nous, on a donc ces fameux testeurs d'accessibilité qui se réunissent une fois par an ou deux fois par an et qui passent en revue tous les services en ligne et les nouveaux services et qui nous disent des choses. J'ai toujours en tête cette personne, on était très fiers de notre page de formulaire et qui nous a dit mais moi j'arrive pas bien à lire et l'introduction il y a trop de phrases, il y a trop de mots dans l'introduction de votre formulaire, je n'arrive pas à le lire, je ne comprends rien. Et voilà, et ça, une fois qu'on a eu ce genre de personnes, ça nous amène à réfléchir autrement. Et puis il y a un certain nombre de services sur l'accessibilité qui sont mis en place. Typiquement pour les personnes sourdes et malentendantes, avec un service en ligne cette fois-ci qui est carrément une prestation où les gens, lorsqu'ils appellent la mairie et qu'ils se déclarent en situation de défaillance auditive, passent par des médiateurs, par l'équivalent d'une visioconférence où là il y a des gens qui soit sont capables de signer et de lire la langue des signes ou le langage labial ou donc lire sur les lèvres classiquement. Et puis transcrire par écrit ou en oral pour que l'autre opérateur. Donc ça permet, et c'est pour ça que je dis que le téléphone est central sur cet aspect-là.
D'accord.
Parce que du coup, même une personne... Et on, par exemple, on est très 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 attentif au nouveau dispositif proposé par l'État qui s'appelle Aidant Connect, qui est en cours de montage, sur lequel on essaie d'avoir une participation active, qui consiste à autoriser des médiateurs autorisés, cette fois-ci, à remplir des formulaires sensibles à la place d'eux.
D'accord, c'est passionnant, mais je vois qu'on arrive vraiment sur le... qu'on arrive sur les dernières secondes. Vraiment, c'était passionnant, je vous remercie. Je trouve très intéressant qu'on finisse cet échange sur la centralité du téléphone et de l'humain dans tout ce dispositif. En tout cas, Olivier, directeur de la Ville Numérique pour Nancy, un très grand merci à vous et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et merci d'être avec
Merci beaucoup. Merci, au revoir.
Enfin.
Alors, mon collègue donc Étienne Gonu échangeait avec Olivier Simon, directeur de Nancy Ville Numérique, sur la stratégie logicielle libre et données publiques de la ville de Nancy. Et évidemment, le téléphone est aussi central à la radio pour faire notamment des interviews.